Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cordialement, Zoé.
Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'accueille Maïloane, qui est hôtesse de l'air depuis plus de 6 ans et qui vient nous raconter son quotidien en vol et casser aussi les clichés sur ce métier. Alors pour ceux qui ont déjà pris l'avion, vous allez découvrir dans ce podcast la face cachée du travail du personnel de bord et vous allez voir des choses à raconter, il y en a. Et pour ceux qui n'ont jamais pris l'avion, et ben on vous embarque aussi avec nous dans ce podcast. Je suis sûre que ça va vous intéresser et bienvenue Maïloane. Ça va?
Ça va et toi?
Ça va très bien. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie?
Bien sûr, je m'appelle Maïloane, j'ai 26 ans, je suis hôtesse de l'air depuis 6 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 4 ans et...
Une vie déjà bien remplie. Tu es hôtesse de l'air.
Voilà.
Qui revient de vol juste avant ce podcast.
Qui a failli louper le podcast à cause de la tempête.
C'est vrai qu'il y a la tempête en ce moment, les avions c'est un peu cata. Du coup, comment tu t'es retrouvée à travailler en tant qu'hôtesse de l'air?
Alors, je suis issue d'une famille d'hôtesses de l'air et de stewards. Ma mère est hôtesse de l'air depuis bientôt 40 ans.
Okay.
Et mon père est chef de cabine principal, à bord des mêmes avions que moi. Donc, je les ai vus faire ce métier depuis que je suis toute petite. C'était un peu mon quotidien d'enfant de navigant. Et ça m'a donné envie de faire la même chose.
Vous avez déjà travaillé ensemble, genre sur les mêmes vols et tout?
On a fait un vol tous les trois.
Oh, c'est trop chou.
C'était trop bien. Mes parents sont séparés en plus, donc ils ont fait l'effort de demander ce vol avec moi pour qu'on soit tous les trois ensemble. C'était super.
Oh, j'adore, c'est trop mime. Du coup, pour ce métier, vous êtes formée. C'est quoi la préparation? Comment tu t'es retrouvée à commencer vraiment ce métier?
Alors, le parcours d'études, au niveau des études vraiment scolaires pures et dures, il faut juste le bac.
Okay.
Plus on a de diplômes, mieux c'est, parce qu'on enrichit notre CV. Mais si on a juste le bac, ça marche aussi. Et ensuite, on a une formation à suivre. Donc, on a déjà une formation en anglais pour avoir un niveau, soit B1, B2, selon les compagnies. Et on a une formation à passer qui s'appelle le CCA, c'est le Cabin Crew Attestation. C'est une formation théorique puis une formation pratique qui te donne toutes les compétences en matière de sécurité, secourisme, sûreté, pour faire voler les avions en toute sécurité.
Ok. C'est quoi, tu fais, c'est quoi les exercices qui t'apprennent? C'est si quelqu'un fait un malaise ou...
T'as un petit peu tout. Ça va de survivre en milieu polaire si jamais on se crache au Groenland, à réanimer quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, à accoucher une femme qui accoucherait dans l'avion.
Ok, vraiment tous les scénarios possibles.
C'est ça.
Vous êtes formés pour.
On a plein de casquettes.
Et c'est quoi ta journée type avant de partir en vol et quand le vol est fini? Comment ça se passe?
Alors, mon moment préféré de la journée, je pense que c'est celui où je me prépare, où je fais toute ma petite routine de soins pour bien préparer ma peau avant un vol. À cause de l'air sec des avions, c'est un carnage des fois, et puis les SUV. On met notre uniforme, on se rend à l'aéroport 1h30 avant le vol pour faire un briefing. Okay. Et c'est là où on va rencontrer notre équipage.
Ah, c'est pas tout le temps le même équipage que
non,
qui travaille ensemble?
Non, ça change tout le temps. On dit qu'on vole en moyenne avec quelqu'un tous les 5 ans ou tous les 7 ans.
Ok, ah punaise. Et le vol auquel t'es affecté, tu l'apprends combien de temps avant? Est-ce que t'as un emploi du temps, genre je sais pas, sur les 2 prochains mois ou c'est en fonction de la semaine, ils vous placent où ils ont besoin?
J'ai un emploi du temps qui arrive un mois avant.
Okay.
Mais on a des périodes de blanc, des périodes de réserve et ce sont des semaines ou des blocs de 5-6 jours où tu vas tous les jours à l'aéroport et t'attends d'être appelé au cas où il y a une hôtesse de l'air ou un steward qui soit absent sur le vol et tu le remplaces.
Okay.
Donc dans ces cas-là, tu fais une valise avec des maillots de bain et des tongs, mais aussi des doudounes, des bonnets, tu sais pas, tu sais pas où tu dors.
J'avoue. Et du coup, donc tu te prépares et après tu vas à l'aéroport, du coup.
C'est ça. Je fais mon briefing. C'est là où je rencontre mon équipage et où les chefs vont nous donner toutes les informations du vol. Donc, est-ce qu'il y a des mineurs non accompagnés? Est-ce qu'il y a des personnes à mobilité réduite, des turbulences? Est-ce qu'il y a des particularités sur le vol?
Okay.
Et ensuite, on a une navette qui nous amène à l'avion où on va effectuer une check de sécurité pour être sûr que l'avion est prêt à décoller et qu'il n'y aura pas de souci.
Ok. Toi, tu es plus sur vol long courrier ou... Ça dit court courrier ?
Oui.
Court courrier.
Je suis sur les longs courriers.
Ok.
Je suis sur tous les vols à l'international, à peu près de plus de 4 heures ou plus de 5 heures.
Ouais, j'avais demandé à partir de combien c'est... Ok, plus... Donc, grosse journée.
C'est ça.
Et ensuite, vous faites entrer les passagers.
C'est ça. On les aide à s'installer. On va reconnaître les clients au statut.
Ok, comment ça
donc, il y a des clients qui sont réguliers et on les voit sur leur dossier, donc il faut qu'on aille les installer, se présenter.
Ok.
Ensuite, on s'assure que tout le monde est bien attaché, que l'avion peut décoller en sécurité. Et une fois qu'on est en l'air, en altitude, c'est là qu'on commence le premier service. Donc ça, c'est vraiment la grosse phase un peu sport du vol. Mm. Selon la cabine dans laquelle on bosse, si on est en économie, on peut avoir, je sais pas, une trentaine de passagers à servir en un laps de temps assez court.
Ok, vous avez des créneaux précis à respecter
On n'a pas des créneaux précis, mais en fait, si on prend trop notre temps, le passager qu'on a servi au tout début va attendre super longtemps avant qu'on le débarrasse et il faut que ça soit un petit peu plus speed. Et plus on avance dans les cabines, donc si on va en cabine premium, on a un peu moins de passagers à servir par personne, donc on peut un peu plus prendre notre temps. En business, on a encore moins de passagers et en première, la personne qui bosse en première classe a 4 passagers à servir.
Ah, c'est business première. Je crois que c'était l'inverse.
Dans l'ordre du plus haut au plus bas.
Ouais.
Je sais pas si on peut dire comme ça. Dans l'ordre du plus cher au moins cher, on a la première classe, la business class, la classe premium et la classe économie.
Punaise. Et c'est quoi qui change entre la première business? Enfin, c'est la place, les services,
c'est
la nourriture.
La première classe, c'est vraiment le top du top. T'as une voiture qui t'emmène en bas de l'avion, un salon dans l'aéroport, t'as une hôtesse qui t'accompagne pendant tout ton trajet dans l'aéroport. T'es vraiment pris en charge de A à Z. Le service, il est très prestigieux.
Ouais,
les plats sont dressés vraiment à l'assiette. C'est à nous de faire le dressage directement. Okay. On n'a pas un plateau qu'on leur sert. Ils ont un lit, on leur fait leur lit, on leur donne un pyjama.
Punaise, oui. J'adore. Enfin, j'adore. Je pense que je ne prendrai jamais la première, mais
pourquoi pas,
peut-être un jour, écoute.
C'est ce qu'on mérite.
Voilà, finalement. Ok, et donc du coup, pendant le vol, quand c'est des longs vols de 10-12 heures, vous faites quoi quand les passagers ont mangé et dorment, quoi?
Alors en fait, il y a deux phases de service. Il y a le premier service en tout début de vol et le second service en toute fin de vol. Et entre les deux, l'équipage se divise en deux parties. Et t'as une partie qui fait la première garde pendant que l'autre partie fait le premier repos.
Ok.
Et ensuite, on échange en milieu de vol.
Ok. Donc, vous avez une salle de repos, des sièges, des...
C'est ça.
Ok.
Il y a plein de passagers qui sont pas au courant et qui nous voient monter ou descendre par des escaliers. Ils se disent, mais ils vont où? Dans les soutes ou... Et non, on a un post-repos pour nous avec des petites couchettes, des rideaux. On peut s'isoler un petit peu, dormir un petit peu. Ça, c'est cool.
Ah, c'est cool, ouais, parce que je pense que quand t'enchaînes les vols, t'es tellement dans les décalages horaires, les trucs, machin, que t'as besoin quand même de...
Oui. De
dormir, quoi.
Oui, oui.
Et ensuite, quand vous atterrissez, c'est quoi la procédure? Est-ce que vous restez dans le pays où vous êtes? Comment ça se passe?
Une fois qu'on a fait débarquer les passagers, il y a une navette qui nous emmène à un hôtel.
Okay.
Et on reste là-bas entre 24 heures et 4-5 jours, si on a vraiment de la chance.
Ok.
Mais en général, c'est plutôt 24 à 48 heures.
Ok, après, tu repars dans un autre vol.
C'est ça.
T'as dû faire beaucoup de pays. Trop bien. Et ton premier vol, ça s'est passé comment? Est-ce que t'étais stressée? Est-ce que... T'avais hâte? Comment c'était? C'était quoi? C'était pour aller où d'ailleurs?
J'étais super stressée. C'était pour aller à Montréal et j'avais 19 ans ou 20 ans. Enfin, j'étais toute jeune. J'étais toute jeune et la moyenne d'âge dans ce métier, elle est assez élevée. Mes collègues avaient tous 45, 50 ans. Donc j'étais vraiment le petit bébé de l'équipage. On est allé à Montréal. C'était un 24 heures Montréal et j'ai été prise en charge vraiment de A à Z. Ils m'ont tout expliqué. J'étais pleine d'appréhension parce qu'en fait, en formation, on t'explique plein de choses. Théorique, mais c'est pas forcément la réalité du métier. Et quand t'arrives dans l'avion et que c'est ton premier vol, ben en fait tu sais pas quoi faire. Tu sais ce que tu devras faire, tu sais ce que tu devras servir, mais on te dit pas, je sais pas, qu'il faut aider les gens à remplir les bacs à glaçons, les bacs à café, à thé, toutes des petites subtilités qu'on te dit pas forcément pendant la formation. Et dans le métier, c'est beaucoup d'anticipation, donc t'as plein de choses à faire en permanence qui sont petites et qui sont pas difficiles, mais il faut les faire le plus rapidement possible. Et ça, tu le sais pas.
Ouais, c'est sur place que tu découvres.
C'est ça.
Mais du coup, tout s'est bien passé.
Tout s'est bien passé.
Trop bien. Et c'est quoi la chose que vous redoutez, la hantise du personnel de bord en vol?
Bah, une phase d'alerte, je pense.
Ouais.
Une phase d'alerte où on nous dit qu'on va devoir dérouter, amerrir, atterrir, mais évacuer.
Ouais, mais en général, c'est rare, ça. Donc,
c'est rare, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois.
Ouais, touche du bois. J'espère. Du coup, on va passer à la deuxième partie du podcast où on va vraiment parler. Bah là, tu nous as expliqué un peu l'organisation autour de tout ça, mais vraiment en vol. Est-ce que toi ou tes parents, vous avez vécu une expérience qui vous a marqué, qui vous a choqué, je sais pas, un truc où vous le gardez encore aujourd'hui et c'est une histoire que tu racontes à tes enfants, à tes petits-enfants
Alors, en 6 ans, j'ai pas eu l'occasion de vivre tant de choses et en même temps, tant mieux.
Ouais.
J'ai sondé un petit peu ma mère pour savoir s'il y avait eu des expériences très marquantes. Et elle m'a raconté, ben c'est un peu glauque, je sais pas si tu mets des trigger warnings ou pas. Mais...
Petit trigger warning sur le décès.
Sur un vol Antananarivo à Madagascar.
Ok.
Ma mère, à l'époque, on devait ramasser les écouteurs des passagers en fin de vol. Et on devait les mettre dans des sacs et on devait les ramasser et aller voir chaque passager pour les récupérer. Okay. Et il y avait un passager qui avait pas pris son petit-déj, donc elle lui avait servi son petit-déj, mais il dormait. Elle a récupéré le plateau, il dormait encore, voilà. Et en fin de vol, au moment de récupérer les écouteurs, elle voit que le passager ne se réveille pas. Voilà, il avait le teint pâle, il se réveillait pas et c'était assez flippant.
Oh punaise, ah oui.
Il voyageait seul, ce monsieur. Il n'était pas si vieux que ça, il avait une 50aine d'années. Et en fait, il est décédé pendant son sommeil. Et l'équipage n'a pas pu tenter une réanimation ni rien, parce qu'en fait, ouais. C'était déjà à l'arrivée. On l'a découvert à la fin du vol. Donc les pompiers sont arrivés avec la police, il y a eu enquête, cellule psychologique après pour l'équipage, parce que c'est très dur à vivre.
Ouais, tu découvres ça comme ça et...
Ouais.
Ah ouais, surtout que bah ouais, s'il est en position pour dormir et que bah c'est censé être un moment où tu dors, j'imagine qu'il y en a plein des passagers qui dorment tout le long, tu peux pas les réveiller et tout. Donc
oui.
Et les autres passagers, ils l'ont su ?
Non, ils l'ont pas su parce que c'était en fin de vol, vraiment au moment du débarquement, donc tous les passagers étaient déjà en train de partir.
OK.
Et ma mère a juste voulu le réveiller en lui enlevant ses écouteurs et
il ne s'est pas réveillé.
Il s'est jamais réveillé, c'est horrible.
Ah non, c'est horrible, j'avoue que ça elle doit être choquée, ouais.
C'est ça.
Wow.
Elle m'a raconté une histoire un petit peu plus gaie, on va dire, sur un vol Djibouti où il y a beaucoup de passagers qui font partie de l'armée.
Ok.
Parce qu'il y a des services militaires là-bas et il y avait une hôtesse de l'équipage qui avait son frère qui faisait partie de l'armée de l'air. Et ils se sont concertés ensemble et elle lui a demandé de faire escorter son avion par 2 avions militaires. Donc ça faisait un super beau spectacle. Il y avait le gros porteur commercial au milieu et 2 avions, mais vraiment tout près du gros porteur. Et les passagers pouvaient voir ça par les hublots. C'était magnifique.
Ah, c'est génial.
C'était magnifique, mais j'étais pas là.
J'appelle mon frère, bon, il est dans l'avion d'à côté. c'est drôle comme surprise, c'est trop bien.
Et dans les histoires de sécurité, elle a aussi perdu un moteur en vol. Mmh. Quand on dit perdre un moteur, c'est pas le moteur qui se détache.
Ah, moi, j'avais ça dans ma tête là, j'étais en mode là, mais...
Quand on dit perdre un moteur, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui arrête de fonctionner. Donc l'avion fonctionne en mode dégradé et tu es en alerte toute la fin du vol et tu as peur.
Ah, mais ça veut pas forcément dire qu'il va s'écraser.
Non.
Ok.
Mais c'est
pour pas perdre le deuxième, quoi.
Ah ouais. Et donc, elle a dû dérouter à Dar es Salaam, en Tanzanie, dans une toute petite ville. Sauf que là-bas, ils n'ont pas du tout tous les outils mécaniques pour réparer un deuxième moteur. Donc, ils ont dû reloger tous les passagers dans des petits hôtels aux alentours parce qu'on ne pouvait pas réparer l'avion là maintenant. Donc, ils ont un peu frôlé, évité la catastrophe. Mais,
Tout s'est bien passé encore une fois. Encore heureux. Et toi, tu nous avais raconté que pendant tes vols, du coup, il t'était arrivé des trucs un peu plus dégueu, du coup. C'est sûr que tu risques pas la mort, mais après, t'as pas non plus des trucs.
Ouais, moi, la seule anecdote que j'ai à raconter, mais j'ai l'impression de la raconter partout, c'est le passager qui m'a fait pipi sur les chaussures.
Oh mon Dieu, raconte-nous ça.
C'est dans les toilettes de l'avion qui sont un petit peu compliquées pour certains passagers déjà à ouvrir et puis après à appuyer sur les boutons pour tirer la chasse ou appeler les hôtesses en cas d'urgence. On peut vite se tromper et je pense que le passager a dû appuyer sans faire exprès sur l'appel d'urgence. Donc nous, notre procédure, c'est qu'on frappe à la porte et on attend que la personne nous dise que tout va bien. Si personne ne nous répond, on a un système pour déverrouiller la porte de l'extérieur. Et donc j'ai frappé à la porte, aucune réponse, je déverrouille de l'extérieur, je me dis « Waouh, il y a un passager qui fait un malaise, un arrêt cardiaque, ça peut être super grave » ou je sais pas. Et donc je déverrouille la porte et là le passager se retourne et il n'avait pas encore terminé son affaire, donc il l'a terminé avec grâce et joie et bonne humeur sur mes chaussures. Voilà.
La situation gênante pour vous deux, vous devez regarder en mode.
forcément, c'est le jour où je choisis pas de porter le pantalon d'uniforme, mais la jupe et les collants avec les petits escarpins, tu sais.
Oh mon Dieu. Miam. Moi, j'ai une question, un truc, enfin, une question débile, je viens d'y penser. Les couvertures, les écouteurs, les cache-œil, les trucs qu'on a en vol, est-ce qu'après, vous les prenez, vous les lavez, vous les remettez, ou vous les jetez, ou s'il y a des gens qui les gardent? Enfin, à chaque fois, je me demande ça quand j'utilise.
On a du consommable et on a du réutilisable.
Okay.
Et les couvertures et les écouteurs sont récupérés et reconditionnés.
Okay.
Donc, on lave les couvertures, on les remet sous blister. Les écouteurs, pareil, on les répare et on les reconditionne. Les masques sont des cadeaux.
Okay, donc
vous pouvez les garder, les masques, les petites crèmes, les brosses à dents, heureusement.
Ouais. Non, on les reconditionne aussi.
Mais tout ce qu'on vous donne en main propre, c'est pour vous.
Okay.
Et les écouteurs qui sont déjà sur les sièges, les couvertures qui sont déjà sur les sièges, c'est à laisser dans l'avion. Des fois, on chope quelques passagers avec une couverture autour du cou parce que, je sais pas, ils étaient à Dakar où il fait chaud et ils atterrissent à Charles de Gaulle où il fait moins 8 degrés.
Ouais.
Ils les gardent et puis on est obligé de les récupérer, ça fait mal au cœur. Mais
ouais, mais bon, c'est comme ça.
Si 400 passagers volent 400 couvertures sur chaque vol, c'est la faillite.
C'est compliqué. Et tu nous avais parlé aussi d'une anecdote où tout le monde vomissait.
Oui.
Tout le monde vomit.
Horrible ce vol. C'était un vol où, en fait, je pense que le vomi, c'est vraiment un truc contagieux comme le rire ou comme.
Tu vois,
les émétophobes. Et en fait, il y a deux personnes qui ont vomi et tout le monde s'est mis à vomir. En fait, il faisait très chaud dans la cabine. C'était un vol assez difficile. Je sais plus ce qui s'était passé, mais on avait mis super longtemps à embarquer. Il faisait très chaud. La clim marchait mal. Et du coup, il y a plein de personnes qui ont vomi. Ils sont tous mis à vomir les uns après les autres. Et pareil pour les malaises. Il y a une personne qui a fait un malaise qu'on a installé dans un petit coin de l'avion allongé par terre. C'était un vol plein. Donc les gens ne pouvaient pas vraiment s'allonger sur plusieurs sièges pour dormir. Et alors, je ne sais pas si tout le monde s'est mis à faire un malaise en même temps ou si tout le monde s'est dit « Ah, ça doit être cool d'être allongé par terre avec une couverture. » Mais on a eu plein de malaises et plein de vomis, voilà.
Ah, le vol de l'enfer. Punaise, là, t'atterris, t'es contente d'aller dans ton hôtel. Hein. Et tu nous disais tout à l'heure, du coup, que t'es maman.
Oui.
Comment tu gères ton emploi du temps avec le fait d'avoir un enfant et de... Parce que c'est pas un emploi du temps classique, quoi. Tu fais pas 8h, 18h et tu reviens le soir, quoi.
Oui, c'est facile. Tu galères et tu payes.
c'est beaucoup de
nuits de nounou, beaucoup d'organisation. Dès que tu reçois ton planning, c'est pas anodin. C'est pas où est-ce que je vais partir en vacances le mois prochain. C'est comment je vais faire pour faire garder mon fils. J'ai la chance d'avoir son papa avec qui je suis séparée, mais j'ai la chance d'avoir un papa qui est très solidaire avec moi et qui est très compréhensif et qui est très arrangeant. Donc, on essaie vraiment de se partager la garde au mieux. Il habite à 1 heure de chez moi, mais des fois, il dort à la maison quand il faut emmener le petit à l'école le lendemain. Il a une clé de chez moi. On essaie de gérer vraiment comme on peut. Et puis sinon, il va chez la nounou. Donc, la nounou, c'est une maman d'une élève de sa classe, enfin, une élève de son école. Du coup, c'est assez pratique parce qu'elle récupère les deux en même temps, elle les fait manger en même temps, elle a déjà trois enfants, donc c'est voilà. Elle m'a dit un de plus, un de moins, ça change pas grand chose
au bout d'un moment. Et maximum, tu peux t'absenter combien de temps quand tu as un long vol et que tu restes quelques jours sur place? Après, est-ce que ça, par exemple, tu peux faire genre, je sais pas, Paris-Singapour, Singapour-Guadeloupe et genre Guadeloupe-Paris? Enfin, t'as des vols connexions ou
on rentre toujours à Paris, sauf les vols où on fait par exemple. Si on fait Yaoundé-Douala, qui est dans le même pays, où on va rester 1 heure en escale dans une ville et ensuite aller dans une autre ville, mais on ne fait jamais un retour Paris, puis redépart dans la foulée, ou une bretelle, genre Bangkok, Tahiti, tu vois.
Ouais, donc tu arrives toujours à rentrer au bout d'un certain jour pour voir ton fils et passer du temps quand même.
Le maximum que j'ai fait pour l'instant, c'est 5 ans, donc ça veut dire 5 jours touchés par le travail, donc 4 jours, partir 4 nuits.
Ok.
J'ai pas fait plus et j'ai la chance d'être dans une compagnie où ce sont les plus anciens qui choisissent leur vol et qui veulent les meilleurs vols, donc ceux où on part longtemps. Et moi, ça me laisse à chaque fois les courts vols, donc je peux rentrer vite et voir mon fils. C'est cool.
Ouais, donc c'est bien. Et comment tu gères le décalage horaire? T'es pas tout le temps HS, t'arrives à dormir en fonction des pays où t'es?
C'est horrible. Enfin, ça dépend. Quand je pars vers l'Amérique, c'est cool parce que je suis une couche tard, lève tard à Paris.
Okay.
Donc en fait, là-bas, comme ils sont en général moins 6 heures, quand il est 6 heures du matin là-bas, il est midi à Paris, donc l'heure à laquelle je me lève d'habitude.
Okay.
Donc j'arrive à profiter de mes escales. Mais là, je reviens de Singapour où c'est l'inverse, on a 7 heures de décalage dans l'autre sens. Et en fait, j'ai vécu la nuit et j'ai dormi toute la journée, donc j'ai pas profité de mon escale.
Ouais, c'est ça aussi.
En général, ce que je fais, c'est que pour les vols de 24 heures, j'essaie de rester à l'heure de France. Et pour les vols où je reste plus de 48 heures en escale, si je veux profiter un petit peu, j'essaie de me caler à l'heure du pays.
Oui, de visiter, etc.
Mais ça dépend, il n'y a pas de science, il n'y a pas de théorie, chacun vit son jet lag différemment. Je sais que là, on était un équipage de 13 personnes et les 13 ont eu des horaires complètement opposés, différents. Okay. Donc, on s'est tous levés à des heures différentes.
Et il y a une cohésion d'équipe, vous vous entendez tous bien et vous pouvez faire des choses ensemble pendant l'escale où chacun a envie de faire sa vie tout seul et de couper un peu là-bas.
Ça dépend. Même moi, ça dépend. Il y a des fois où j'ai envie de faire des trucs en équipage et il y a des escales où j'ai envie d'être toute seule et de m'occuper juste de mes excursions et de pas être... Enfin, c'est compliqué de faire un voyage avec des gens que tu connais pas, que des gens que ouais. tu connais pas. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes horaires, on n'a pas tous le même tempérament. Moi, j'ai remarqué que les fois où j'essaie d'être un peu leader et de proposer des activités, ben en fait, l'équipage compte beaucoup sur moi et me demande plein de trucs. Et après, on fait quoi? Et après, on fait. Et en fait, ça peut être assez fatigant. Donc, des fois, je prends aussi la position de suiveuse et ouais. je me greffe là où il y a de la place. Et des fois, on reste seul, en fait.
Ouais, ça fait du bien aussi. Ouais.
Après, je pense qu'on est tous recrutés un petit peu pour avoir le même tempérament et pour assez bien s'entendre. Mm. Et le point commun qu'on a entre toutes les hôtesses de l'air et les stewards, à part quelques erreurs de casting, c'est qu'on est tous, non, on est tous plutôt gentils oui. et plutôt bienveillants.
Et vous vous adaptez, vous êtes pas, il n'y a pas quelqu'un qui est hyper antipathique et de mauvaise humeur tout le temps, quoi, parce que.
On est beaucoup recrutés pour nos capacités humaines. Mm. Et on sait aussi ne pas s'embrouiller pour rien. Donc, si on a un problème avec quelqu'un, on va juste ne pas lui parler, mais on n'est pas très virulent, tu vois.
Ouais, bah, c'est important quand même, parce qu'un avion, c'est pas non plus immense. Donc, si t'es coincé.
T'es enfermé dans un tube 14 heures avec quelqu'un que tu peux pas supporter, tu peux pas te permettre de te taper sur.
Et c'est quoi les clichés qu'il y a sur le métier d'hôtesse de l'air que tu entends souvent?
Alors moi j'entends souvent, comme je fais du contenu sur les réseaux, j'ai plein de personnes qui me posent des questions par message et j'entends souvent, j'aimerais être hôtesse de l'air mais mes parents veulent pas parce que ils disent qu'on fait que servir des cafés dans les avions. Mmh. J'aimerais être hôtesse de l'air, celui-là il fait trop mal au cœur. J'aimerais être hôtesse de l'air mais je suis trop grosse. Ah. Ou je fais que 1m60 ou
ah, c'est horrible.
Mais c'est horrible, mais en fait c'est horrible, mais c'est justifié parce que avant c'était le cas et à l'époque de nos parents, tu vois, les hôtesses de l'air étaient recrutées sur leur physique. Là aujourd'hui, les lois ont changé, on n'a plus de discrimination à l'embauche. Il y a des choses qui sont pas possibles. Si tu fais 1m20, c'est pas possible. Tu peux pas atteindre les racks à bagages, tu peux pas assister des personnes en cas d'évacuation, mais voilà, j'ai une de mes super potes hôtesses de l'air qui fait, je crois, 1m56.
Ouais.
Et qui fait très très bien son job. Et voilà, si elle a un problème pour atteindre un rack à bagages, bah, y a une autre hôtesse un peu plus grande ou un steward qui va venir l'aider. Mmh. On s'entraide beaucoup entre nous et surtout, c'est si peu important le physique pour être hôtesse de l'air. On te demande pas de. T'as pas besoin d'être Shakira pour réanimer un passager qui fait un arrêt cardiaque, tu vois.
C'est vrai que le physique, quand tu dois gérer une situation de crise, il importe pas. C'est surtout savoir garder son sang-froid, savoir avoir les bons réflexes, etc. quoi.
Oui.
Donc, ouais, c'est souvent ça. Et t'as déjà eu des remarques un peu, justement, parce que t'as un peu le cliché, une femme hôtesse de l'air, enfin, je sais pas, dans la tête des hommes, de certaines femmes, ça peut être un peu bizarrement vu.
Oui.
T'as déjà eu des remarques comme ça?
Alors, j'ai déjà des passagers qui m'ont proposé des services extra, on va dire, en dehors de ma mission.
Comment ils disent ça? Genre, ils te disent cash en mode...
C'est souvent en anglais, et c'est « I can spoil you with $100 a week ». La phrase, c'est « je peux te gâter avec 1000 euros ou 2000 euros par semaine
». Oh mon Dieu.
C'était sur les vols Dubaï. On a beaucoup de... Enfin, ça arrive qu'il y ait des passagers qui nous proposent des choses comme ça. Ça reste rare, mais...
Ah, ça me dégoûte. Toi, t'es juste là en mode... Non, mais je veux juste débarrasser ton plateau, en fait.
Oui, complètement. Complètement. Et après, dans les clichés, pareil, sur mes vidéos, j'ai souvent des remarques un peu négatives. On voit pas ma tête sur le podcast, là, mais on me dit souvent « Ah, t'es hôtesse de l'air ?» Ben, on dirait pas. Ou parce que j'ai des tatouages, j'ai des piercings, je fais pas un 34. Je suis pas grosse, mais je fais pas un 34.
Ouais, t'es normale, quoi.
Et ils ont vraiment l'image des hôtesses de l'air, mais parfaite et nickel. Et comme si, si t'étais pas exactement dans les normes, t'étais pas légitime de faire ce métier.
C'est fou qu'il y ait des gens qui pensent ça encore aujourd'hui, quoi.
Oui.
Punaise.
Mais je pense que les gens ne se doutent pas que les hôtesses de l'air ont une vie en dehors de l'avion.
Mais ouais. Toi, t'es tranquille, tu rentres de ton petit voyage, tu es en mode, oui, bah, ils restent dans l'avion tout le temps après, quoi. Enfin,
c'est ça. C'est ça. Et. je pense qu'on attend vraiment de nous, en dehors du physique, qu'on ait aussi un comportement d'hôtesse de l'air dans la vie de tous les jours. Et en fait, non, bah, on est juste nous-mêmes. Mmh. Moi, je suis une femme, maman, percée, tatouée, je fais la fête, je sors, enfin, je fais ma vie, en fait, en dehors de mon métier, et ça m'empêche pas d'être nickel en uniforme et de bien m'exprimer devant les passagers. Puis après, si je veux être vulgaire avec mes potes ou beauf comme je suis, libre à moi, quoi.
Ouais, comme dans tout métier, finalement. Tu t'adaptes à ton environnement et tu t'adaptes à... Mais c'est normal. Mais c'est vrai que... Et je sais pas pourquoi il y a ça, justement, que... Bah, je sais pas, les gens se disent, le personnel de bord, il reste à bord tout le temps, tu vois.
Ouais, c'est vrai que des fois, en fin de vol, il y a des passagers qui nous disent bah, « Bon courage pour le vol retour ». Je me dis « Mais on a passé le même vol ou pas ?» Vous vous rendez compte de la fatigue accumulée? Vous pensez qu'on va le faire le retour dans la foulée? Non.
Ouais, j'avoue que...
Non, non.
Et sur les réseaux sociaux, comment tu t'y es mise? Pourquoi? Et comment, qu'est-ce que tu réponds à ces personnes qui ont ces clichés-là, justement?
Je réponds pas.
Ouais, en vrai.
Je réponds pas, je me contente d'être moi-même et de faire mon contenu sans prendre en compte les remarques négatives. Des fois, quand ça me pèse, je supprime le commentaire pour juste pas le voir. Mm. Et on me dit, mais tu censures, tu supprimes tes commentaires. Mais non, je censure pas. Enfin, est-ce que t'as envie de voir écrit t'es moche?
Ouais, bah non, je fais la vidéo, même.
Non, bah voilà. Et les gens comprennent pas non plus que tu vas pas voir quelqu'un dans la rue pour lui dire, tiens, t'es pas belle.
Ouais. Non, mais c'est juste...
Les écrans permettent beaucoup de choses, c'est vrai. Non, mais j'ai commencé j'ai commencé sur YouTube. J'ai posté une première vidéo parce que pas mal de personnes me posaient des questions sur mon métier et je voulais juste envoyer cette vidéo aux personnes.
Okay.
Et c'était pas forcément censé être quelque chose qui perce ni rien. Et puis d'ailleurs, ça a pas trop percé sur YouTube. Mais je me suis pris au jeu. J'ai adoré filmer, monter, publier, créer une petite communauté, encore à petite échelle, tu vois, mais voilà. Et après, j'ai commencé à faire des TikTok et là, c'est un monde à part. Hein.
Ouais, ah bah TikTok, de toute façon, tu comprends rien. Je comprends rien à cette appli.
Oui.
Tu fais des trucs en 2 secondes, il y a 1 million de vues. Tu mets sans temps à faire des trucs, personne ne le voit. Mais c'est trop bien parce que justement, ça permet de toucher des gens. Parce que ce que je trouve différent avec les autres réseaux, YouTube ou Insta, c'est que les gens, ils te suivent. Genre, ils te suivent, ils follow. Et s'ils ne te suivent pas, ils ne voient pas ton contenu.
Oui.
Alors que sur TikTok, tu peux avoir... Donc, c'est bien des fois parce que tu as n'importe qui tombe dessus. Donc, ça permet de toucher aussi une autre audience. Bon, des fois, tu touches un peu des gens, comme tu disais, un peu pas très intelligents et qui ouvrent un peu la bouche pour rien. Mais du coup, ouais, t'as dû apprendre à beaucoup de monde la vérité finalement derrière ton métier, quoi.
Complètement.
Et ils sont curieux de ça, les gens?
Oui, bien sûr. Souvent d'ailleurs, quand j'essaie de sortir un petit peu du thème hôtesse de l'air, les gens reviennent dessus. Tu sais, je fais une vidéo où je suis super heureuse parce que j'ai retrouvé ma meilleure amie après des années. On me dit, mais il faut une taille minimum pour être hôtesse de l'air. Là, mais oui, mais c'est pas... Enfin non, mais c'est pas...
C'est vraiment pas... Wikipédia.
C'est pas le sujet. Non, les gens sont très intéressés. Et quand j'ai commencé les réseaux sociaux, il n'y avait qu'une ou deux hôtesses de l'air françaises qui faisaient du contenu là-dessus. Et maintenant, tout le monde le fait sur TikTok, donc c'est génial. On a notre petite communauté entre nous où on fait des fois des vidéos avec d'autres hôtesses, d'autres compagnies. C'est super intéressant de voir la différence entre les compagnies aussi. Et les gens sont intéressés par les backstage du
ouais.
métier.
Ouais, c'est ça. Et t'as pas, justement, c'est pas mal vu de la part des autres hôtesses et stewards que tu fasses ça. Ils sont pas en mode, elle dévoile un peu trop sur notre métier. Ou si, les gens sont hyper.
Ça dépend. J'ai déjà eu des remarques de collègues, mais en fait, à partir du moment où tu donnes pas ta compagnie, tu dis pas chez qui tu bosses, moi, j'ai rien à me reprocher, en fait. Avant, je mettais des photos en uniforme quand j'avais une toute petite communauté et que voilà, enfin, ça.
Des photos limite que tu partages à tes potes, quoi, des
trucs.
Oui,
voilà.
Ouais.
Mais là, je dis pas dans quelle compagnie je travaille. J'ai un uniforme, un faux uniforme que je porte sur certaines vidéos.
Ok.
Je peux dire ce que je veux un petit peu et ça nuit pas à l'image d'une compagnie. Donc,
ouais, au contraire, ça.
Et je précise à chaque fois que les expériences que je raconte, ce sont mes expériences à moi. Si je vais en boîte, on m'a reproché de dire que je vais tout le temps, que je sors tout le temps en escale et que je donne une image du métier qui est de faire la fête tout le temps. Mais en fait, c'est moi qui fais la fête tout le temps et souvent, je suis la seule de l'équipage, tu vois. Donc, et à chaque fois, je le dis, c'est mon expérience à moi.
Ouais, c'est ça, tu fais ce que tu veux de ton temps finalement.
Complètement.
Et tu le vis comment, ça, justement, d'avoir un équipage qui change tout le temps et de pas vraiment pouvoir créer du lien? T'as pas de collègues comme si t'allais au bureau et que tu travailles tout le temps avec les mêmes personnes. Est-ce que c'est dur ou pas?
Au début, c'était un petit peu frustrant parce que quand j'ai fait mon premier vol, je me suis super bien entendue avec l'équipage, j'ai pris les numéros de tout le monde, je me suis dit ouais, on s'appelle, on se fait une bouffe et tout. Et eux, je voyais qu'ils étaient pas prêts à ça. Enfin, on fait jamais ça en fait, on recontacte quasiment jamais nos collègues. Et c'est vrai que j'ai repris contact avec personne et c'était frustrant parce que tu crées des souvenirs, t'es des fois dans des lieux incroyables, tu vis des choses que tu vivras jamais dans ta vie et tu le vis avec des personnes avec qui tu partages l'instant. Et tu te dis, mais la prochaine fois que je vois cette personne, c'est sûrement dans 7 ans.
Ouais.
Donc, j'ai eu du mal à m'y habituer. Et puis maintenant, j'essaie d'y voir les avantages. C'est que déjà, quand tu t'entends pas très bien avec une personne, tu sais que tu la reverras pas. Donc,
ça, oui, c'est sûr. Bye.
Voilà. Et je sais que les liens que je crée avec des personnes que je revois, ce sont des liens vraiment sincères parce qu'ils ont pu outrepasser ce truc de on se revoit plus jamais. Tu vois, on se dit qu'on se recontacte et on le fait vraiment. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une volonté des deux côtés de garder un lien. Et finalement, en 6 ans, j'ai dû me faire 4-5 vrais amis que je revois régulièrement, mais pas plus que ça. Et pourtant, je vole avec 13 personnes différentes 5 fois par mois.
Ouais, donc tu rencontres du monde, quoi, mais tu comptes quand même sur les bonnes personnes.
Oui.
Et c'est quoi la destination qui t'a fait le plus rêver, le truc que t'as vu où là tu t'es dit « Waouh, ça n'a pas trop à voir avec le podcast et le métier, mais juste moi, je me demande trop. »
Moi, je pense que c'est Rio. Vancouver ou Rio. Mais Rio, ça a une saveur particulière pour moi. J'adore l'ambiance de la ville. J'aime beaucoup déjà la musique brésilienne, la bossa nova. Je suis musicienne, donc il y a un truc avec ça, où tu marches dans les rues de la ville et t'entends un petit papy qui joue à la guitare comme ça. Et puis, t'as de tout. T'as la plage, t'as les montagnes, t'as une diversité des paysages qui est incroyable. Et il y a une excursion que je fais tout le temps en escale. Et à chaque fois, je motive tout mon équipage pour le faire parce que je connais le mec qui fait ça. C'est un bateau et t'es sur la baie de Rio au coucher de soleil, on te fait un barbecue, tu bois des coups et puis tu vois un paysage vraiment magnifique. Et à chaque fois dans l'avion, je suis là en train de motiver tout le monde parce qu'il faut être un minimum de personnes.
Ouais.
Je suis là, mais je connais, regardez les photos, c'est trop bien, vous allez voir. Et à chaque fois, c'est un moment incroyable.
Putain, incroyable, ça a l'air trop beau. Trop bien. Et pour finir le podcast, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui aimeraient faire ton métier, mais peut-être qui n'osent pas parce que c'est un emploi du temps assez spécial, il y a des clichés, ils ont peur, je sais pas.
Alors, premièrement, il y a moyen d'essayer ce job pour l'été. En tant qu'étudiant, les personnes qui sont à la fac ou en école, elles peuvent faire ce métier pendant 2 mois ou 3 mois. Donc, il n'y aura pas la partie sécurité, mais il y aura toute la partie service et commercial. Donc, ça peut te donner une idée du métier.
Ok.
Et c'est surtout ne pas écouter les personnes qui vont te décourager parce qu'il y en aura forcément. C'est un métier qui reste quand même assez mal vu de la part des parents parce qu'on s'attend à ce que notre enfant fasse des grandes études et tout. Sauf que je me dis, moi, à 19 ans, je touchais quasiment 2000 euros par mois.
Ouais.
Le même salaire que mes potes qui sortaient de 5 ans d'école de fac. Je voyage tout le temps. J'ai des réductions sur les billets d'avion. En fait, je vis la vie que je voulais vivre après 5 ans d'études, sauf que je la vis maintenant et finalement, j'ai pas fait de grandes études, mais j'étais la première à avoir un vrai salaire, j'étais la première à avoir le monde et aujourd'hui je m'épanouis mais plus que tout et je pourrais pas changer de job.
C'est trop beau. Ça se voit que t'aimes ton métier.
J'adore mon métier.
C'est trop chou. Merci beaucoup d'être venu raconter les petits backstage de ton métier. C'était hyper intéressant. J'ai adoré.
Merci à toi, c'était super cool.
J'espère que ça vous aura plu, ceux qui nous écoutent actuellement. Et c'est quoi ton compte Insta du coup ?
C'est She's Flying.
She's Flying. Je mettrai en description si vous voulez aller voir ces petits contenus. Et puis moi, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Cordialement, Zoé.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.